Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on commence, Charles, avec la tenue du jour.
La tenue des députés en période de canicule. Yaël Braun-Pivet a décidé d'assouplir le règlement intérieur du Palais Bourbon pour permettre aux députés de siéger sans être trop incommodés par la chaleur. Elle a levé l'obligation faite aux hommes de porter la veste et la cravate, y compris dans l'hémicycle. Mais certains voudraient aller plus loin. C'est le cas du député socialiste Arthur Delaporte qui est apparu hier en polo dans les couloirs de l'Assemblée. Je suis pour qu'on autorise le polo short dans l'hémicycle, a-t-il dit sur BFM TV.
Et je sais que Fred, ça vous scandalise.
Mais oui, fais pas ce métier, quoi. Enfin, tu représentes les Français, quoi.
Il fait pas ce métier pour se mettre
en costume. Non, mais je suis désolé. Enfin, l'Assemblée nationale, c'est un lieu symbolique. Enfin, je veux dire, c'est là où on fait les lois. Ils représentent les Français, les députés, ils sont élus. Donc, quand t'es élu, t'as certaines obligations. Bah non, t'es pas en short, t'es en polo dans l'Assemblée nationale. Ou dans ce cas-là, tu vas pas travailler dans un endroit aussi majestueux. On va te mettre dans un préfabriqué. Bah ouais, on s'en fiche dans ce cas-là. Maintenant, il faut que la tenue soit en accord avec le lieu prestigieux. Si c'est si beau, si prestigieux, c'est parce que ça a un sens symbolique. Eh ben, il faut être en accord. Je suis désolé.
Vous pouvez avoir des très beaux shorts en lin
non,
et chemisette.
Non, excuse-moi, tu ne discutes pas de la loi sur l'euthanasie en short. Je suis désolé.
Oui, mais tu ne discutes pas d'une loi sur l'euthanasie s'il fait 45 degrés.
Non, mais voilà, je suis désolé. C'est climatisé à l'intérieur de l'hémicycle. Donc voilà. Donc après, tu t'es en veste, tu peux s'il fait chaud dans les couloirs. Tu l'enlèves dans ton bureau, ce que tu veux. Mais là, moi, j'ai élu un député, une
députée. Vous avez élu, oui.
Et du bon, en l'occurrence, c'est une qui est députée de ma circonscription. Mais voilà, cette personne me représente.
Donc mais nous, les femmes, on n'a pas ce problème, elle peut arriver comme elle
veut.
Votre élu, elle peut arriver comme elle
veut. Mais désolé, ça fait partie des inconvénients d'être un homme. Et ben. Tant pis, il faut l'assumer.
On leur a quand même beaucoup reproché de porter des robes. Hein. Au début, les femmes s'habillaient comme des hommes, hein, parce que c'était comme ça que ça le passait mieux. Moi, j'avoue que je ne suis pas choquée par le fait de doter la veste et la cravate. J'avoue que le polo et le short, ça ne me met pas à l'aise. Parce que, c'est peut-être surprenant, mais ça ne me met pas à l'aise parce que nous, en entreprise, d'une manière générale, c'est vrai que le polo passe très bien, le short, ça dépend où on travaille, mais d'une manière générale, passe pas très bien non plus. Enfin, pourquoi il pourrait. Charles, il dit non, elle a tort.
Parce que les mœurs sont changées un petit peu.
Non, mais les mœurs sont changées. Mais attendez, c'est la représentation.
Attendez, les amis, c'est le climat qui a changé. Là, on est en débat du 20e siècle.
C'est climatisé.
Il faut s'y rendre à l'Assemblée.
Ils mettent une tenue dans leur sac à dos.
Ils ont des bureaux, ils ont des vestiaires.
Donc, ils y vont en short et ils mettent le pantalon.
Voilà, ils mettent leur veste pour aller. Quand tu vas voter la loi.
Voilà, quand tu es dans l'hémicycle de cette partie qui est filmée notamment, moi, je trouve qu'il faut une représentativité, comme le disait Fred, pour l'importance. De ce que tu es en train de faire. Après, quand tu es dans ton bureau, pour avoir vu quelques bureaux de l'Assemblée nationale, c'est des placards.
C'est horrible.
Alors là, qu'ils soient en short et t-shirt, si les assistants et les assistants parlementaires.
Dans l'hémicycle, ils s'habillent.
Mais bien sûr.
Et au moment où ils votent à loi de l'Assemblée, au moment où ils rentrent en commission, par exemple, c'est des grandes salles de réunion qui sont filmées.
Dès lors que c'est filmé, les salles de commission.
Alors quand c'est filmé, pantalon.
Non, mais même. Quand c'est pas filmé, peu importe, c'est climatisé, ces salles-là. J'y suis allée assez souvent. Donc quand tu es en représentation, tu représentes les Français, les Françaises.
Les Français, tu t'habilles
après. Oui, bien sûr, mais ils sont pas en train de voter des lois sur l'euthanasie ou à la fin de vie en tout cas. Donc voilà. Et par contre, quand ils sont dans leur bureau, alors là, moi je comprends qu'ils se mettent en short parce que là, pour le coup, il fait très très chaud.
Et il y a plein de boulots où il y a un uniforme. Et en fait, quand vous arrivez au restaurant, par exemple, une tenue. Vous arrivez en short et en t-shirt au restaurant. Vous allez au vestiaire, vous changez et quand vous êtes, avec les clients, vous êtes bien sapé. Et là, pour le coup, l'assemblée.
En tant que client, j'ai envie que le serveur il transpire pas dans un pantalon. Ou avec une veste. J'ai envie qu'on habille le serveur dans une tenue plus.
T'as vu les serveurs à Paris? Ça, c'est vraiment très Paris. Ils ont toujours cette même tenue noire et blanche qui est très classe. Ils crèvent de chaud en ce moment sur les terrasses.
Ils crèvent pas de chaud. Qu'ils soient en short
évidemment.
Et en polo.
Mais ils sont pas en train de voter des lois, donc on pourrait leur enlever.
Ce que Charles disait là à l'instant, c'est qu'en effet, ça change. C'est-à-dire qu'on est dans un nouveau temps climatique. Regardez dans tous les pays chauds, les uniformes de gendarmes, de soldats, il y a une tenue short et chemisette. On en a parlé hier soir, je vous ai demandé la permission et je suis venu aujourd'hui en short et en t-shirt et je trouve que ce qu'on fait nous pendant 3 heures, on est proche des gens, c'est-à-dire qu'on parle de l'actualité concernante, on est au maximum avec les gens dans leur temporalité, alors que à l'Assemblée on est hors du temps et que c'est vrai que si on a des images, si une grande loi se vote aujourd'hui et qu'on a des images de députés en Bermuda, alors qu'on ne sera plus dans cette temporalité-là parce qu'on est au-dessus du temps, on est en dehors du temps, ben, je trouve que ce serait gênant. C'est pour ça que, en effet, il faut garder un certain uniforme. Souvenez-vous, quand les LFI sont arrivés à l'Assemblée il y a quelques années et qu'ils ont dit, bah, non, on met pas de cravate, ça a fait un tollé. Parce que, en effet, on tient à ce qu'il y ait cette représentativité, et cette solennité.
Et souvenez-vous de la canicule de 2003 avec le ministre de la Santé de l'époque qui était arrivé en chemisette et ça avait fait un tollé. En polo. Voilà. Et effectivement, le fait qu'il soit arrivé en polo avec.
Il était en dents.
Oui, il était en vacances, en polo. Et donc là, pour le coup, c'était très très mal passé.
Simplement, une petite phrase. T'imagines les lois qui ont marqué l'histoire. T'imagines les images de l'abolition de la peine de mort et on aurait des mecs en polo et en short. Non mais t'imagines,
ça fait pas sérieux.
Mais peut-être que dans 30 ans, on trouvera ça parfaitement normal.
Oui, mais ou pas.
La mesure du jour.
Aller chez le kiné sans passer par la case généraliste. Cette mesure pourrait faire économiser 14 milliards d'euros. Conclusion d'une étude réalisée par l'économiste Frédéric Bizard. Selon ce rapport, le fait d'aller directement chez le kiné permettrait de faire plus de prévention, d'éviter des arrêts maladie, de réduire les risques de chute chez les seniors. Les chutes représentent 90% des accidents de la vie courante aux urgences pour les plus de 75 ans. S'ils pouvaient aller directement chez le kiné, il y aurait plus de prévention. Rappelons que quasiment la moitié des actes de kinésithérapie en France concernent les plus de 65 ans. C'est déjà expérimenté, cet accès direct au kiné dans quelques départements depuis 2023. Ce rapport propose de le généraliser tout le temps, partout, à toute la France.
Emmanuel Dancourt, est-ce que vous y êtes favorable à aller chez le kiné sans passer par le généraliste?
J'adore cette idée. Déjà, on va chez le gynéco sans passer par le généraliste, chez le pneumo, chez l'ortho.
Chez le pneumo, je ne suis pas sûre du tout.
L'ophtalmo.
Ah, moi, chez l'ophtalmo, le pneumo, moi, j'y vais comme
mais
ça.
Mais parce que ça se trouve, tu payes plus cher et tu ne le sais pas.
Ah, peut-être. Chez l'ophtalmo, il y a déjà tellement de hauts où on y va tout seul, et je trouve que ça déchargerait en plus les médecins généralistes. Je comprends la cohérence de vouloir repasser par le médecin généraliste parce qu'il gère ton dossier machin. Moi, mon médecin généraliste, je suis pas sûre qu'il gère beaucoup. Mais on gagnerait beaucoup d'argent, on gagnerait du temps, on laisserait les médecins généralistes à ceux et celles qui en ont vraiment besoin, et puis eux, ça les déchargerait. Ils croulent sous la tâche, et on a du mal à trouver des créneaux dans certains endroits. Je trouve qu'il y a que des avantages à cette proposition. Je ne vois pas quel pourrait être le désavantage d'une proposition pareille. J'adorerais avoir direct accès à ma kiné, quoi.
Frédéric Mel.
Oui, bien sûr. Après, il ne faudrait pas qu'il y ait de dérive non plus. Parce que par moment, tu vas avoir un spécialiste, et parfois il y a du temps, alors que tu n'as pas besoin d'avoir un spécialiste. Ton généraliste, voire ton pharmacien aurait suffi. Donc parfois, si c'est pour des choses, je vais dire, très mécaniques, facilement repérables. En gros, tu as mal au genou. Voilà, tu vois ce que je veux dire.
Peut-être que tu as mal au genou à cause d'autre chose et que le kiné ne serait pas détecter.
Il y a peut-être une tumeur, il y a peut-être un truc. Je sais que c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué. Sur l'idée, oui, il faut faire des économies, mais pas au détriment de la santé.
Et oui, pour le kiné, mais non pour les spécialistes. Parce que là, attention, un kiné, c'est pas un médecin spécialiste, il est pas médecin. Il a été formé pour être kiné, pas pour être, c'est pas un médecin. Donc oui, pour ce genre d'acte, mais attention aussi que le kiné, ait quand même la sensibilité pour pouvoir renvoyer vers un médecin généraliste s'il trouve quelque chose qui lui paraît bizarre.
Et aujourd'hui, tu peux aller voir, pas forcément le kiné, mais un médecin spécialiste. En fait, c'est juste que tu seras moins bien remboursé, mais tu peux y aller, tu peux aller direct voir ton ORL.
C'est
mais
le remboursement.
Tu seras moins remboursé, mais tu as cet accès.
Le parcours de soins.
Exactement.
C'est ça, en France, le principe avec la Sécu, c'est le généraliste qui centralise et qui ensuite vous oriente vers un spécialiste.
Ce qu'il faut, c'est que ça pourrait nous faire gagner 14 milliards d'euros.
C'est énorme.
Au moment où on cherche de l'argent, effectivement, ça pourrait être appréciable. Et puis, on termine avec le trophée du jour.
Le trophée de la Coupe du Monde qui sera potentiellement remis au vainqueur par Donald Trump. C'est Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui l'a annoncé sur Fox News hier lors d'une interview. Je serai avec Donald Trump pour assister à la finale et évidemment remettre le trophée au vainqueur ensemble. Nous sommes toujours ensemble, dit-il. Cette déclaration pourrait donc bousculer le protocole habituel de la finale. Selon le protocole habituel de la FIFA lors de la victoire d'une équipe à la Coupe du Monde, c'est le capitaine de l'équipe victorieuse qui soulève lui-même le trophée placé sur un piédestal et que personne en théorie ne touche avant lui. Potentiellement, Donald Trump l'avait déjà fait lors de la Coupe du Monde des clubs organisée l'été dernier. Il pourrait remettre en main propre, on va le dire comme ça, le trophée au vainqueur.
Ça vous choque, Frédéric Mel ?
Non, pas tant que ça. c'est le pays organisateur, quoi. Enfin, je veux dire, si ça se passait en France, Coupe du Monde en France, je serais content.
Oui, ça c'est pas fait. Macron qui remettrait.
Non, mais je te dis, j'aimerais que le président de la République, représentant de élu de tous les Français, soit celui qui remette, puisqu'à partir du moment où le pays investit dans des stades, dans tout ça, enfin, je veux dire.
Non, mais Fred, la Coupe du Monde. Le problème, c'est qu'il y a trois pays. Pourquoi plus Trump?
Mais tout simplement parce que la finale est à New York.
Mais non, parce que c'est de la politique, tout ça. C'est une prise de pouvoir sur le sport, c'est de la politique, c'est de l'image, c'est des tractations entre eux. Moi, ça me rend dingue.
Prise de pouvoir sur le sport, il n'a pas fallu attendre Trump, hein, tu sais.
Bah, bien sûr, mais ça continue.
La politique a toujours pris le pouvoir sur le
sport. Bien sûr, et le sport a toujours été politique.
Le président actuel de la FIFA, Infantino, quand tu vois ce qui s'est passé au Qatar, où, je ne voudrais pas remettre deux sous dans la musique, mais je trouvais beaucoup plus choquant, je vais m'en prendre plein la gueule, comme tu en avais pris, la manière dont il s'est présenté, dont le vainqueur, le capitaine de l'équipe d'Argentine, Léo Messi, s'est présenté avec un habit traditionnel du Qatar. Je trouvais ça beaucoup plus choquant que le fait d'avoir...
Ben non, mais t'imagines l'émir du Qatar si ça avait été la même chose il y a 4 ans, mais en disant pas. C'est l'émir du Qatar qui va remettre la Coupe du Monde.
En fait, il faut enlever la politique du football et revenir. C'était avant.